remportons ces élections, tout va changer.
RPH déroule le tapis rouge à la 63e rencontre cinéma de Pézenas.
Το ερώτημα δεν είναι γιατί ασχολείται κάποιος με το κίνημα, αλλά γιατί δεν ασχολείται.
Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Ils font tout pour vous écraser, vous et l'espoir que vous représentez.
To break out of these chains is already a big win.
Marianne Isartel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à passer quelques instants dans notre compagnie pour parler cinéma, bien sûr, puisque vous êtes présente à Pézenas dans le cadre de la 63e rencontre cinéma de la ville. Marianne Isartel, vous êtes chef monteuse, scénariste, réalisatrice française. Ça, c'est l'aspect professionnel.
En fait, moi, je ne me revendique pas comme réalisatrice ni scénariste, quoique j'ai un peu réalisé et un peu scénarisé, mais mon métier, c'est chef monteuse. C'est-à-dire que c'est de ça que j'ai vécu, et c'est pendant, depuis 67, je travaille dans le montage. Et le fait de parfois réaliser ou parfois co-scénariser ne me donne pas l'envie de me revendiquer comme telle. Je ne suis pas sur le métier comme je suis réalisatrice. Non, Dieu m'a évité d'avoir envie de faire des films. Donc parfois je fais des bonus ou parfois je co-réalise quand on me le demande, mais ce n'est pas du tout un vœu profond. Scénariste, j'ai écrit, co-écrit avec Charles Belmont pas mal de scénarios. Un seul a été tourné pour Clémence, mais les autres étaient très intéressants à faire aussi. Donc voilà, donc je suis monteuse depuis 67, chef monteuse depuis RAC en 71, on l'a monté, il est sorti en 72, le film qui est présenté ici. Je dois dire que je suis à ma troisième visite à Pézenas sur 63, c'est déjà pas mal, et que à chaque fois j'ai trouvé que c'était que les rencontres ou la rencontre était vraiment à la fois très intéressante sur le plan de la programmation et très chaleureuse comme atmosphère et comme possibilité de rencontre. Donc c'est avec plaisir que quand Martine Lassalle m'a proposé de venir que j'ai dit oui. Alors il y a deux films. Je présente Histoire d'art, qui est un film donc co-réalisé avec Charles Belmont. Charles Belmont, je vais quand même en dire un mot avant de parler de ses films. Charles Belmont était acteur, un jeune acteur découvert, si on peut dire, par Chabrol pour La Nouvelle Vague. Après, il y a eu Mocky, puis il y a eu le cinéma commercial, ça ne l'a plus du tout intéressé. Donc, il a été finalement, grâce à un producteur, André Michelin, qui avait acheté les droits de L'Écume des Jours de Boris Vian et qui voulait lui confier le rôle de Colin dans une adaptation qui n'avait pas encore de réalisateur. Finalement, Michelin a pensé que Charles, le voyant sur des plateaux et tout, était plutôt fait, quoi qu'il soit un très bon acteur, mais plutôt fait pour réaliser lui-même, et il lui a proposé de réaliser L'Écume des Jours, ce qui était un challenge dingue. Enfin, voilà. Et c'est sur ce film, en 67, que je l'ai rencontré. Moi, j'étais dans l'équipe de montage. J'avais déjà travaillé sur deux autres films, et là on s'est rencontrés, et on est tombés en amour, et on a vécu ensemble pendant 44 ans. À la suite de ça, moi je montais des courts-métrages, surtout documentaires. À la suite de ça, il a fait RAC, et c'est mon premier long-métrage de fiction, c'est mon premier montage. Après j'ai monté tous ces films, qui ne sont pas si nombreux que ça. Et j'ai travaillé à différents niveaux avec lui. Voilà. Mais j'ai fait aussi beaucoup de montage par ailleurs, parce qu'il a fait 7 films en tout, donc ça ne suffit pas. J'ai fait beaucoup de montage par ailleurs, de tous les montages. C'est-à-dire, tant qu'il n'y avait pas le numérique qui a spécialisé les gens, ça serait un débat qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a vraiment à dire sur la spécialisation due aux outils. Moi, je montais de tout. Du long du court, du documentaire, téléfilm, films expérimentaux, publicité, films institutionnels, et tout ça, c'était très agréable parce que ça voulait dire qu'entre les gros projets qui durent plusieurs mois, y avait tout un tissu de petits films qui avaient l'avantage, plein d'avantages, l'avantage déjà de gagner ma vie, l'avantage de faire les fameuses heures qui permettent d'avoir accès aux assédiques, l'avantage de rencontrer des gens et de faire des montages qui ne sont pas les mêmes en fait que sur un documentaire ou sur un sur une fiction d'une heure et demie ou plus.
J'ai reçu beaucoup de réalisateurs pour des entretiens à l'occasion de la rencontre au cinéma de Pézenas. Tous ont insisté à un moment ou à un autre de nos échanges sur le rôle que jouaient les monteurs, nous disant que c'était eux qui mettaient la dernière main, la dernière patte pour le film qui allait être présenté. Ils m'ont souvent dit aussi que les monteurs étaient des personnes exigeantes, très précises dans leur travail. Parlez-nous un petit peu, s'il vous plaît, de ce qu'est le rôle du monteur. Souvent, c'est simplement un nom qui apparaît, un monteur, telle personne, et tout ça, dans le générique. Mais en quoi consiste réellement, et comment vous avez vécu le rôle que vous avez pu jouer en tant que monteur ?
J'ai eu la chance de vivre, et de vivre assez bien, d'un métier que j'ai aimé pendant des années. En fait, j'ai arrêté de faire du montage pour les autres après la mort de mon mari, en 2011. Maintenant, je fais du montage pour ce que je tourne moi-même, c'est-à-dire des bonus de DVD. Bon. Donc, pendant tout ce temps-là, eh bien, il y a tout. D'abord, ça dépend beaucoup des réalisateurs, la place qui nous assigne. Il y a des réalisateurs qui sont hyper précis, mais tellement précis que moi, je ne travaille pas avec eux parce que je ne veux pas qu'on me donne l'ordre de couper là. Je veux bien qu'on discute sur une proposition que j'ai faite, mais je ne veux pas qu'on me dise à l'avance, comme Rivette faisait, par exemple, on coupe là, on coupe là, on coupe là. Moi, ça... Il y a ceux qui, au contraire, sont désinvoltes et disent bah, « tu me tricotes quelque chose » et puis je reviens. Non, ce n'est pas suffisamment engageant dans une voie pour être intéressant. Il y a ceux, alors là, c'est plus terrible, ils ne voient rien que eux-mêmes. Quand ils voient les rushs, ils ne voient pas les rushs. Ils voient l'image qu'ils en avaient quand ils ont écrit le scénario ou tourné et qui n'est pas là. Alors ça, c'est un petit peu difficile. Il y a ceux qui sont sur votre dos tout le temps. Et moi, j'ai acquis assez de bouteilles et même de réputation, je peux dire, pour pouvoir, depuis un bon moment, dire que je n'ai pas envie que... pendant que je monte, que le réalisateur soit sur mon dos. Il peut être pas loin. Charles Belmont, par exemple, ne quittait jamais la salle. Mais il pensait à la suite, il pensait à la musique, il lisait l'équipe éventuellement, mais il n'était pas sur mon dos. On parlait. L'idéal pour moi, c'est de dérusher avec le réalisateur, c'est-à-dire regarder bien les rushs, les vrais rushs, ce qui est tourné, parce que dans la tête. Et nous, on a un rôle important là. Regardez bien les rushs et ensuite parler sur ces rushs, de ce qu'il voudrait, de ce que je pense, de ma réaction. Ensuite, de travailler toute seule et de retravailler ensuite avec le réalisateur sur ma proposition. Ce qui est très important, ce qui était très important du temps de l'Argentique, je trouve, c'est que tous les soirs, on avait une projection des rushs. Et cette projection des rushs, elle avait plusieurs avantages. L'un était que toute l'équipe comprenait pourquoi le stagiaire avait arrêté les voitures, le régisseur avait trouvé un bon resto, ces gens qui ne voyaient pas le tournage forcément comprenaient ce qui se passait au tournage quand ils voyaient les rushs. Ça fédérait l'équipe, enfin, s'ils aimaient les rushs, hein, parce que s'ils ne les aimaient pas, ça... Bon. Et moi, je n'allais pas au tournage, j'ai jamais aimé le tournage, de toute façon, parce que ça ne me correspond pas, je suis trop extravertie, je ne suis pas assez polie, enfin bon... Mais en plus, j'étais la première personne, comme les monteurs de mon espèce, j'étais la première personne à voir les rushs sans être parasitée par le tournage. Et le réalisateur, il attend toujours cette première vision, quoi, one shot. Hein, on ne va pas avoir deux fois la première vision, là, une fois. Et c'est là qu'il se passe des choses qu'on gardera dans la tête et dans le cœur, puis après on retravaille, évidemment. Donc, le rôle est très différent. Enfin, il y a une base qui est la même, mais après, ça se décline selon que ce sont des documentaires ou des fictions. Des fictions écrites, en général. Des documentaires souvent peu écrits, ou alors ils peuvent être très écrits, comme par exemple le film de Charles Belmont, Les Médiateurs du Pacifique, c'était très très écrit pour des raisons que je peux développer. Alors que Océanie, c'était, et Histoire d'art, complètement improvisé. Après, ça se construit au montage. Mais ça, c'est les documentaires. Donc, on imagine bien que les documentaires, les monteurs ont un rôle très important puisqu'il faut bâtir. Et on bâtit ensemble, par exemple, on analyse les rushs, on fait un plan. Les post-it nous ont sauvé la vie parce que c'était quand même compliqué de changer le plan tout le temps sans post-it, mais le post-it est l'allié du monteur. Et on bâtit quelque chose d'idéal et puis on commence à travailler, puis on le change parce qu'on se rend compte que cette chose théorique ne fonctionne pas, etc. Pour la fiction, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Fellini. C'est un petit peu prétentieux de parler comme ça, mais oui. Il disait que le montage était l'endroit où le film, qui avait été d'une certaine façon assassiné en tant que film au tournage, reprenait vie. Et moi, qui ai fait du scénario, pas de tournage pour ainsi dire, et du montage, je voyais bien que c'était en effet deux opérations qui se ressemblent. D'ailleurs, j'ai fait un cours à la fac Paris 8 sur ça. On m'avait demandé un cours relation entre le scénario et le montage. Bon. Donc le montage, il redonne vie. Après, il y a différentes façons de faire. Moi, je n'ai jamais fait d'ours. L'ours, c'est un premier montage mal léché pour voir comment ça tient. Moi, je trouve que ça ne tient jamais parce que c'est mal léché. Donc, autant que j'ai pu l'imposer, et tout le temps, en fait, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des réalisateurs qui me faisaient confiance et des productions qui ne m'embêtaient pas, ou peu. Je commençais le film, pour peu qu'il soit entièrement tourné déjà, et ça c'est ce que je préfère, ne pas monter pendant qu'il se tourne, dans la mesure où je crois qu'une séquence de début de film, de milieu ou de fin ne se monte pas de la même façon, même si c'est la même scène. Donc, ce que j'aimais beaucoup, c'est commencer le montage bien, tout de suite. Quand je dis bien, le mieux possible, sans me dire « bon, on verra ça plus tard ». Bien, y compris en faisant plusieurs bandes son, éventuellement, ça alourdit, ça ralentit. Mais moi, je sais où je vais à partir du moment où ça ressemble à vraiment un film fini. Bon, après, on retravaille, mais... Et le matin, j'arrivais et je revoyais le film là où il en était. Si on était à 5 minutes, si on était à 10 minutes, même si on était à 20, ou je revoyais tout pour être vraiment dans le rythme pour la suite. Et le rythme que parfois je modifiais pendant cette vision du matin. Donc ça, je l'ai fait aussi bien pour les documentaires que pour les fictions, d'essayer d'avancer sur quelque chose qui est déjà bien.
Vous appartenez à la génération qui a connu la révolution du numérique. Je suppose que ça a été quand même un changement assez profond de travail, enfin, pas dans l'esprit, si vous voulez, mais dans l'utilisation des outils.
C'était un cataclysme d'une certaine façon pour les monteuses comme moi qui avaient 25 ans d'argentique, qui adoraient l'argentique, qui adoraient le poids, qui adoraient la sensorialité, qui adoraient le temps de flottement indispensable quand on manipule des objets comme la pellicule. Remonter une bobine, ça prend du temps, aller chercher une chute, ça prend du temps, tourner, enfin, jouer avec les éléments, ça prend du temps. Toucher la pellicule avec les lèvres pour savoir le côté mat, côté brillant, c'est extrêmement jouissif. Il y a l'odeur des crayons blancs, il y a ces gants blancs, tout ça.
L'odeur de la colle peut-être aussi ?
Non, pas de colle. Pas de colle, c'était bien avant moi la colle. Nous, c'était les scotch.
Ah oui.
C'était le scotch. Les presses, hein, c'était pas des ciseaux. Enfin, toujours est-il que quand on arrivait pour... monter un film, on se posait la question, comment va être le réalisateur, comment va être la production, est-ce que le labo va être efficace et diligent ou pas, etc. Mais c'est tout. Et puis comment je vais bien travailler avec ce réalisateur. Arriver au numérique, au début, c'est la peur au ventre. Et ça, les monteuses de mon âge, et même un peu plus jeunes encore, on arrivait la peur au ventre. Parce que au début, tout le monde balbutiait. Les boîtes de prod, comme les productions, comme tout le monde balbutiait. Et on savait pas s'il allait avoir de la mémoire suffisamment. C'était des pixels presque, parce qu'il n'y avait pas assez de mémoire. Ce n'était pas une image comme on voit maintenant. C'était très fatigant pour les yeux. On ne connaissait pas forcément bien le logiciel, ou bien les gens avaient pris un mauvais logiciel pour le travail, etc. C'était toujours la faute de la monteuse, toujours, toujours. Et moi, j'en suis arrivée à m'équiper chez moi avec Final Cut, dans une petite pièce que j'avais sous les toits, pour pouvoir au moins bien m'exercer et tout ça. Mais bon, après, on change de logiciel et tout. Et là, je suis encore rendue à la même chose, c'est-à-dire que je suis en train d'apprendre Resolve pour le film que je suis en train de réaliser comme bonus au DVD de Rack. Donc, on est toujours dans le même apprentissage, mais au moins, j'ai personne sur le dos. Ça a été un grand changement de par l'implication du corps. Pour moi, tous les arts ont à voir avec le corps, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, ou même l'écriture, ou avoir avec l'implication du corps, et qui implique aussi un rythme, et aussi des pesanteurs. Et ces pesanteurs, elles nous obligent à avoir des moments de non-réflexion qui sont assez féconds, je trouve. C'est quand même pas mal de ne pas être tout le temps en train de réfléchir, de lire des menus, etc. La disparition du corps, c'est juste cliquer au lieu de faire ça, quoique certains logiciels ont gardé ce mouvement analogique qui faisait qu'on arrêtait, on voit rien à la radio, mais voilà, on arrêtait d'un mouvement analogique et pas d'un mouvement digital, comme ça, discret. Et ça a changé aussi la relation au réalisateur, parce que le réalisateur, au moment où on travaillait ensemble, je parle dans mon cas, présentation d'une séquence, je la découvre parce que moi je la monte au marque. En argentique, je monte au marque. Ça veut dire que j'ai tout en tête pour pouvoir l'écrire sur un papier, ensuite marquer la pellicule, que l'assistant ou l'assistante va ensuite réaliser à l'aveugle. Après, on découvre, ça peut être formidable, ça peut être moyen, ça peut être mauvais. Et le réalisateur, avec lui, on retravaille. Mais en numérique, il ne sait jamais où on en est. Puisque clic, on est au début, clic, on est à la fin, clic, c'est... Donc il faut repenser les relations avec le réalisateur. Ça, c'était très important. Et moi, j'ai aussi réalisé avec une monteuse qui était au banc de montage et qui était tellement hypnotisée par l'image que je commençais à lui dire des trucs pour la faire réagir. Je lui disais des trucs de plus en plus bizarres pour la faire réagir parce que je n'arrivais pas à la déshypnotiser. Après, il y a eu les maladies infantiles, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des maladies infantiles, les gens qui coupent trop court parce que c'est tellement facile de couper, les gens qui coupent pas précisément parce qu'ils vont arranger, puis ils arrangent pas si bien que ça, les gens surtout qui font des fondus partout, parce qu'avant c'était tellement compliqué de faire des fondus, là il y a des fondus partout, ça devient tout mou, ou alors ça devient tout cut, bon, il y a eu tout ça. Mais évidemment, ça a évolué, l'image est devenue de meilleure en meilleure, des connaissances ont été faites, et les artistes, je parle des artistes, et des artisans aussi, d'ailleurs, ben, ils ont trouvé le moyen de dompter ces machines. Mais pour moi, je ne serais plus capable de monter aux marques. C'était vraiment un exercice difficile. Et satisfaisant d'une certaine façon, mais ça demandait de connaître très très bien les rushs.
Et un savoir-faire exigeant.
Très exigeant. Et c'était assez magique quand on avait fait des marques, raccord 1, 2, là on coupe, à l'autre bout de la bobine il y a le plan qu'on va raccorder, mais il faut bien l'avoir en tête, parce qu'il ne s'agit pas de coupailler. Et ça, je n'aurais pu le faire.
Marie-Adélie Sartel, quand on parcourt votre biographie, on perçoit que vous avez été toujours habité par une volonté de militantisme. Est-ce que ce militantisme, qui souvent défendu la cause féministe, a joué un rôle dans le choix, les choix professionnels que vous avez fait, par rapport aux gens avec lesquels vous travaillez, par rapport au contenu des films, par rapport aux sujets qu'ils abordaient, ou des choses comme ça?
Alors, je n'ai pas été du tout, je réfute, je n'ai pas du tout été attirée par le militantisme. J'ai été attirée par le fait de changer des choses en mieux selon mes critères. C'est pour ça que quand j'ai milité contre la guerre d'Algérie, c'était contre la guerre d'Algérie, ce n'était pas pour militer, etc. pour la cause féministe, moi, j'étais pas très féministe. J'étais tout à fait pour le féminisme. Je pensais que c'était très intéressant qu'il y ait le MLF et tout, mais j'étais maoïste à cette époque-là. Et donc, en tant que maoïste, je pensais, tout à fait à tort, qu'il fallait d'abord faire la révolution et que de la révolution naîtrait tout naturellement une cause, une condition des femmes magnifique. Et donc j'ai remis ça en cause. Mais je suis devenue vraiment féministe un petit peu avant Histoire d'art, parce qu'il y a eu beaucoup, la MLF a fait des tas d'actions avec lesquelles j'étais d'accord. Et puis, RAC, film de fiction, nous a fait rencontrer le groupe Information Santé, qui étaient des militants, des médecins, la plupart étaient médecins, militants, la plupart étaient maoïstes aussi, mais pas tout à fait, mais c'était quand même un groupe informel de gens qui voulaient améliorer la médecine et le système de santé. Et pour RAC, on les avait consultés pour certaines scènes, les scènes burlesques. Et on est restés amis, et c'est là qu'ils ont demandé à Charles Belmont de tourner un avortement, la méthode Carman. Et nous, on est partis sur notre lancée, c'était un mouvement très libertaire, personne n'allait contrôler rien, et puis c'était pas le... on était d'accord sur l'essentiel. Et à partir de là, on a tourné, pas tellement, enfin, en tant que militant, parce qu'on voulait changer la loi pénale sur l'avortement, mais plus largement en tant que sensible à la cause non seulement des femmes, mais aussi des couples et aussi des gens. Et on a fait ce film qui a eu... peut-être grâce à deux choses, grâce à son interdiction totale et grâce à ce que je dirais sans honte, sa qualité formelle, a fait qu'il a traversé les décennies. Ensuite, j'ai milité dans d'autres trucs, mais pas tant que ça. C'était toujours l'idée d'améliorer. Et comme Charles Belmont, lui aussi, tous ses films étaient, avaient un objectif, alors, avaient une base émotionnelle, mais un objectif, une réflexion d'améliorer la vie, tout simplement. Donc ça correspondait tout à fait. Après, moi, je n'ai pas choisi vraiment en fonction de ça les gens. D'abord parce qu'il faut être très, très, comment dire, célèbre et tout ça pour choisir. Moi, ça me nuisait plutôt. Après Histoire d'art, j'ai eu un gros trou de montage parce que les gens pensaient que j'étais réalisatrice alors que j'ai jamais dit ça, et les gens pensaient que je m'intéresserais qu'à des choses extraordinaires, mais moi j'ai juste envie de monter des chevaux en Mongolie, quoi.
Et en France, quand on se trouve classé dans un tiroir, c'est difficile d'accéder aux autres, quoi.
Voilà, donc plus tard j'ai pu remonter les chevaux en Mongolie et tout ça, et les gens me disaient on n'osait pas te demander et tout. Alors ce qui a joué en militantisme, c'est plutôt de donner des coups de main à des films vraiment fauchés, mais qui avaient quand même une belle proposition idéologique. Hein. Sinon, voilà. Sinon, j'ai fait de la pub, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire cette pub-là, qui était de la pub d'interview. Pas de metteur en scène, pas de storyboard. Des interviews sur la lessive et sur les couches. Et on avait les coups des franches, et on travaillait sur avec ces personnes qui n'étaient pas payées d'ailleurs, et qui étaient des vraies interviews, et c'était bien bien payé, et ça me permettait au bout d'un moment, alors que l'autre monteuse qui était également accréditée par Procter & Gamble restait, moi je partais faire autre chose d'intéressant, moins payé, moins confortable, mais qui m'intéressait. C'était pas forcément politique, ça pouvait être par exemple les films de Pierre Schaeffer ou des choses comme ça.
Vous avez été mariée avec Charles Belmont.
Tardivement, hein.
On a évoqué tout à l'heure. Enfin, vous avez vécu ensemble. Voilà. Disons que vous avez vécu avec Charles Belmont pendant un certain temps, plusieurs décennies d'ailleurs. Et aujourd'hui, bon, depuis sa disparition peut-être davantage encore, vous souhaitez que son œuvre ne tombe pas dans l'oubli. Vous proposez un certain nombre d'activités, de manifestations, de rencontres pour que ce qu'il a réalisé continue à être connu.
Charles Belmont, il pouvait soulever des montagnes pour monter un film, enfin monter la production, le tourner, etc. et le sortir. Et puis l'accompagner à la sortie. Et quand ça s'est sorti, il l'oubliait complètement et il passait à autre chose. Il avait sans cesse des projets devant, dès qu'il réalisait pas, et il oubliait complètement les autres. Et à sa mort en 2011, bon d'abord il a fallu digérer sa mort, et au bout d'un petit moment, je me suis dit que ces films que j'aimais énormément, qui m'avaient procuré beaucoup de bonheur aussi, parce qu'on a adoré travailler ensemble, et que j'admirais en plus, parce que je trouve qu'il a, Charles Benoît, un langage cinématographique qui me passionne, j'ai voulu les remettre en lumière. Alors qu'on ne me dise pas que c'est pour faire mon deuil, pas faire mon deuil, tout ça, parce que ça, c'est des catégories que je ne connais pas. Mais j'ai vu Jean-Yves de Lépinay au Forum des Images, un an après la mort de Charles, a fait un hommage en montrant les 4 films de fiction, parce qu'il a fait 4 films de fiction et 3 films documentaires. Mais comme je disais, ça s'hybride. Et puis, j'ai voulu faire une rétrospective de tous ces films, sauf le court-métrage qui avait disparu, on ne savait où, à ce moment-là, qui était son premier... C'est une adaptation de Kafka qu'il a faite à 26-27 ans, très bizarre, et qui a été un film expérimental, qui a été primé en tant que film expérimental. Mais bon, à part ça, il y avait les 7 longs-métrages. J'ai choisi le cinéma La Clé de l'époque, hein, pas les gens de maintenant qui sont, à mon avis, des imposteurs. Et j'ai été leur dire que je les avais choisis pour faire une rétrospective. Ils ne connaissaient pas Charles Benoît. Je les ai convaincus. Et j'ai organisé, je peux dire, avec une des personnes de La Clé pendant 6 mois, une rétrospective qui a été un bon succès. On en a parlé dans Télérama, on en a parlé beaucoup dans Culture au Point et dans quelques autres. Et ce qui était très intéressant pour moi, parce que c'était le but... le but de cette rétrospective était de montrer ses œuvres qu'on ne voyait plus, mais qu'ils soient apparents, que tous ces films, quels que soient les supports, etc., les conditions de production, les thèmes, les genres, étaient l'œuvre de même cinéaste. Et ça a été analysé, reconnu, et voilà. Après, moi, je me suis dit, mais c'est pas one shot comme ça. Moi, je veux que ces films vivent, d'autant plus que certains étaient dans un état qui n'était pas... Bon, ça passait quand même, mais bon. Je veux faire des éditions DVD. T'es folle, pourquoi ? Personne n'achète des DVD, il n'y a plus de lecteurs. J'ai dit, oui, mais moi, je voudrais des films en physique, quoi. Il n'y a plus les bobines, bien sûr, mais je veux les films en physique. J'ai pas envie que ce soit que des fichiers sur des plateformes ou sur des... je veux les films en physique. Le physique, c'est en fait, c'est surtout la pochette. Hein. Mais il y a quand même le film dans la galette. Et j'ai commencé à faire des démarches. Alors, j'avais créé une association pour pouvoir faire la rétrospective, mais cette association ne suffisait pas pour vraiment éditer des DVD. Il a fallu que je me transforme grâce à un collaborateur extraordinaire que j'ai connu à ce moment-là et qui est toujours mon collaborateur et sans qui je ne ferais rien, qui s'appelle Francis Lecomte et qui édite des DVD sous le nom de Luna Park Film. Sans ce collaborateur, je n'aurais rien fait. Et donc, lui me guide. Il me dit, voilà, il faut créer une société de production. Bon, finalement, j'ai créé une société, je me suis rajouté une casquette sur la tête et j'ai édité des DVD. Comme j'ai pu, ce dont j'avais les droits, quand j'ai voulu... Alors, c'est le CNC, il faut dire, sans qui non plus je ne ferai rien, qui me subventionne à chaque fois, pourvu que ça dure, parce que j'ai demandé des subventions pour l'édition DVD, mais j'ai demandé aussi des subventions pour la restauration. Donc, d'après négatif, encore autre chose. Donc, avec Rauch, je suis à la 5e, et j'ai plus que 2 films à sortir. Pour Histoire d'art, c'est assez particulier, parce que c'est un film qui était totalement interdit, parce qu'il montrait un avortement qui était totalement interdit à l'époque, et puis donc totalement interdit à l'exportation, à la salle, à la projection privée, affiche interdite, totalement interdit. Bon, on n'a pas obéi, on a fait énormément de projections, il y a eu énormément de courses-poursuites avec la police, il y a eu des trucs et des machins. Toujours est-il que ce film était devenu très célèbre et qu'il a tourné pendant 50 ans en fait. Et quand j'ai demandé une aide pour l'éditer en DVD, la directrice du patrimoine, Béatrice de Passe, m'a appelée et m'a dit « Marielle, vous n'y songez pas, il faut le restaurer avec retour au négatif, c'est un film de patrimoine historique qu'il faut qu'on garde pour la nuit des temps, en fait. » J'y avais jamais pensé, je trouvais ironique que maintenant ça devienne le film à garder. Bon, mais elle est très très sympathique et et aidante Béatrice de Pastre. Donc j'ai édité aussi celui-là. J'ai décidé d'éditer moi-même parce qu'ayant testé plusieurs éditeurs, ils ne voulaient pas faire à ma façon. Par exemple, moi je veux toujours qu'il y ait des sous-titres sourds et malentendants. Ah ben non, ça coûte trop cher en fait, ça coûte pas cher, etc. Je me suis dit, tant pis, je me fais éditrice, je choisis tout. Je tourne les bonus, donc là je deviens un peu réalisatrice, je tourne les bonus, je le sors, etc.
On a dit de Charles Belmont que c'était le héros malheureux du cinéma français, avec cette explication que c'était un cinéaste précurseur, peut-être trop. Vous partagez ?
Alors moi je pense, alors ça c'était le titre de Télérama de Jérémy Couston, j'ai pas adoré ce titre, parce que bon ça c'est un côté un peu négatif de dire malheureux, lui par exemple quelqu'un qui quelles que soient les difficultés ne se plaignait absolument jamais, c'était comme s'il les voyait pas les difficultés, moi je les voyais mais bon, traversait comme ça. Je pense qu'en effet sur le plan des thèmes traités, comme sur le plan cinématographique, il était vraiment anticipateur. Et ça, ça a été redit par les chercheurs ou philosophes qui parlent de son œuvre maintenant. Enfin, moi, je n'ai jamais d'abord posé ces mots-là, mais ils ont été posés par des gens qui réfléchissent et tout ça. Et c'est vrai que son œuvre est très singulière comme forme, et les thèmes traités sont plutôt, oui, anticipateurs. Alors, je ne pourrais pas dire ça des deux films qui sont des adaptations. Le premier, L'écume des jours, je ne parle pas du court-métrage, le premier long-métrage, L'écume des jours, ben c'est adapté à sa façon, c'est-à-dire de façon très 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 loin du roman, mais très proche du cœur, comme Prévert, qui adorait ce film et qui l'a beaucoup soutenu, disait c'est le cœur, il a gardé le cœur. Mais il y avait toujours des choses sociales qui passaient ici et là, qui n'étaient pas dans le roman du tout. Et ça, c'était plutôt du côté social, pas anticipateur, si vous voulez dire. Après, la forme, elle est particulière quand même, mais le thème, on ne peut pas dire qu'il soit anticipateur. Ensuite, il y a Rack, qui raconte des choses, effectivement, qui ne se disaient pas du tout à l'époque, Histoire d'art aussi. Pour Clémence, alors là, c'est à la fois la forme et le thème qui est une réflexion sur le travail, et non pas sur le chômage, mais sur le temps, finalement. Ça, c'est vraiment un film très anticipateur.
Dans la mesure où il s'est révélé comme étant un précurseur, c'est peut-être ce qui rend aujourd'hui son œuvre encore plus actuelle et peut-être plus aussi nécessaire. Et c'est peut-être ça qui justifie aussi tout le soin que vous prenez pour conserver, pour... comment on appelle ?
Oui, je comprends ce que vous dites. Non, en fait, non. Moi, si je sors ces films, c'est pas parce qu'ils sont ou anticipateurs, qu'ils ont des thèmes forts, etc. Ça serait plutôt sur quoi je m'appuierais pour les sortir. En fait, ma volonté, c'est une volonté amoureuse et professionnelle, parce que j'ai tellement aimé travailler avec lui. Ça a été tellement des ouvertures, des singularités, parce que c'est quelqu'un qui a une pensée latérale, donc c'était même dans la vie. Donc c'était jamais ennuyeux, quoi, parce que c'était toujours autre que l'habitude, si vous voulez. Donc c'est plutôt ça. Après, je pense qu'il y a des films qui sont encore plus actuels, mais par exemple, ils ne trouvent pas forcément leur public. Pour Clémence, c'est un film qui, après la lutte sur les retraites, qui a vraiment posé la question du sens du travail. Moi, je pensais que ça allait être évident pour tout le monde, mais comme je n'avais pas de distributeur, j'ai eu très peu de projections, en fait. Et quand même, en DVD, ça va, ça s'est un peu vendu, mais ça serait plutôt ce sur quoi je m'appuierais. En revanche, il est anticipateur, certes, mais l'important, c'est de comprendre, enfin, important pour moi, et je souhaite que ce soit partagé, c'est de comprendre sa démarche. Ça part toujours de quelque chose d'émotionnel, avant toute chose. Déjà, c'est l'émotionnel. Qui parfois n'est pas tout de suite compris parce qu'il arrive que sous un film, il y a un sous-film qui se révèle, comme dans Pour Clémence par exemple. Ça part d'une expérience émotionnelle, parfois écrite de la première personne, comme pour Rack ou pour Clémence, où ce sont des sortes de cris, ou bien de cris qui se révèlent mais qui n'étaient pas compris comme un cri mais comme un contentement, mais en fait c'était un cri. Enfin voilà, et cette base permet ensuite une réflexion. intellectuelle, de documentation, etc. Mais sans cette base émotionnelle, il n'aurait jamais eu envie de faire un film basé sur une réflexion pure, quoi. Et c'est ça qui fait que ces films ont disparu, certes, mais c'est des circonstances dues à la production, dues à lui. Mais ils ont été très, très, très bien accueillis au moment de leur sortie. C'était incroyable, l'unanimité de la critique, quoi.
D'abord, il cherche à provoquer des émotions, à raconter une histoire, et à travers la façon dont il le fait, il invite, hein, ce qu'il souhaite, hein, à une réflexion par rapport au sujet, au thème qu'il aborde, c'est ça ?
Oui, alors pour Clémence, il commençait vraiment un film, mais à la première personne encore, qui était soi-disant le bonheur d'avoir son temps libre. En fait, ça s'est révélé ne pas parler du bonheur d'avoir son temps libre, mais de l'angoisse d'avoir son temps libre. Mais pour Rack, je crois que quand il a commencé à l'écrire très très peu de temps après la mort de sa mère, j'ai pas l'impression qu'il pensait à un film tout de suite. Il pensait à un cri de douleur et de révolte contre le système médical. C'est après que c'est devenu un film. Mais on voit les traces de cette émotion dans la construction du film, comme dans Pour Clémence, qui est un film qui a des parties pas du tout, du tout chronologiques.
Pour arriver à construire une histoire, il faut peut-être avoir pris un peu de recul par rapport aux événements qui motivent l'entreprise. Marie-Alice Sartel, on arrive au terme de notre rencontre. Merci beaucoup
d'avoir passé ces quelques instants en compagnie des auditrices et des auditeurs de Radio Pays des Roues.